Bonjour tout le monde, ici Eugénie Francoeur, ex-journaliste, directrice générale d'une petite fondation et curieuse de tout ce qui parle et réfléchit sur la santé, les façons de mieux vivre dans son corps, dans sa tête et dans son cœur. Je vous souhaite la bienvenue sur la balado « Ma santé pour la vie ». Je vous propose des rencontres intimes, surprenantes et éclairantes avec des personnes qui pensent la santé autrement. Ce que je souhaite à travers cette balado, c'est de vous partager ce qui m'allume en espérant que ça puisse aussi vous faire du bien à vous ou peut-être à un proche. Je crois profondément qu'il est possible de vieillir en restant actif et alerte. J'espère que ma croyance et mon enthousiasme se rendront jusqu'à vous. Je vous invite à vous installer confortablement, à écouter et à vous laisser surprendre. Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à ce nouvel épisode du balado « Ma santé pour la vie ». C'est un bonheur de vous retrouver. Aujourd'hui, je vous propose une rencontre coup de cœur avec une pionnière en éco-éducation et en mouvement libre, Julie Filiatro. Julie est une autodidacte et une grande passionnée de l'enfance. Depuis plus de 30 ans, elle développe de nombreuses initiatives, toutes plus inspirantes les unes que les autres, pour les enfants, à les accompagner loin des sentiers battus. D'abord intervenante sociale, puis mère de 4 enfants, elle tiendra pendant 15 ans le Jardin de Julie, un jardin d'enfants éco-nature, axé sur le mouvement libre, tout en étant enseignante à la maison, conférencière en éducation, formatrice en pédagogie naturelle, professeure de yoga et conseillère pédagogique pour le premier grand service de garde en forêt du Québec. Pendant toutes ces années, elle observe l'importance cruciale du mouvement pour le développement du cerveau des enfants. Elle suit des formations en Brain Gym, puis devient consultante certifiée RMTI, Rhythmic Movement Training International du Canada. Ce programme thérapeutique reconnu mondialement crée une stimulation exceptionnelle du cerveau par l'entremise des réflexes neurologiques et de mouvements rythmiques doux mais puissants qui permettent d'améliorer de manière durable la motricité, l'attention, la concentration, le comportement, le langage, la coordination, la gestion émotionnelle, la sphère cognitive, ainsi que de réduire l'anxiété. Julie est également enseignante en éco-éducation au Cégep de Rivière-du-Loup et elle a aussi développé l'approche Koala pour enfants. L'approche Koala offre une thérapie holistique d'avant-garde pour l'accompagnement des petits et grands défis des enfants. Dans notre entretien, Julie nous parle de l'approche Koala, des pédagogies lumineuses, de son parcours unique, de simplicité et de bien d'autres choses. Bonne écoute! Allô Julie, merci d'avoir accepté mon invitation.
C'est un grand plaisir.
Oui, je pense que toutes les deux, nous avons une passion pour la nature, dont tu vas nous parler beaucoup aujourd'hui. Mais avant d'aller là, j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a amené où ce que tu es aujourd'hui, donc une spécialiste de l'éco-pédagogie des enfants. C'est quoi ton cheminement qui t'a amené là?
Ah, ben ça, c'est une longue histoire, mais je vais essayer de la faire en version courte, là. Ben moi, j'étais très proche de la nature déjà enfant. J'étais de cette génération-là, la génération un peu passe-partout, là, où est-ce qu'on était dehors, puis il n'y avait pas encore de lecteur vidéo cassette. On avait un Atari quand j'étais toute petite, puis même moi, ça m'intéressait même pas vraiment. Fait que la nature a été déjà là, la première influence vraiment pour moi dans mon enfance. Très libre de pouvoir être vraiment beaucoup dehors, beaucoup dans la nature, d'explorer beaucoup par moi-même. Puis après, ben, je suis devenue une maman. J'ai étudié en travail social. Je me suis rendue compte en travaillant comme intervenante sociale avec les femmes en difficulté, entre autres, à l'Auberge Madeleine, que je me sentais que j'aurais voulu en fait avoir un effet peut-être avant l'âge adulte chez les personnes comme intervenante. Puis là, ben, en chemin, je suis devenue une maman et là, je suis tombée vraiment les pieds dedans. La petite enfance, la grossesse, la maternité, l'accouchement, les premiers mois de vie d'un nouveau-né, comment ça se passe après tout ça. J'ai eu un bébé, deux bébés, trois bébés, quatre bébés. Et quatre enfants sur le chemin. Quatre enfants extraordinairement uniques et doués et avec toutes sortes de petites particularités qui les rendent vraiment spéciales. Puis j'ai commencé à me poser beaucoup de questions. C'est sûr, comme toutes les mamans, hein, quand on accompagne nos enfants, là, on voit ça de proche, puis on se dit, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on veut pour... C'est quoi le meilleur qu'on veut pour nos enfants? Qu'est-ce qui va être les meilleures influences? Comment les accompagner le mieux possible? Puis dans ce temps-là, ben tu sais, ça fait quand même... Là, j'ai eu ma première, ça fait plus de 22 ans. C'était pas du tout la même chose, là. Le portage, on voyait pas ça, on n'entendait pas parler de ça. Les couches de coton, c'était super alternatif. Il y avait une boutique à Montréal, Bomise, qui vendait des couches de coton, mais c'est tout. Tout était à défricher. Tout était à défricher, puis dans une époque où les enfants déjà recevaient énormément de choses. Les showers, les anniversaires, les grosses fêtes, tout ça, c'était quand même... C'était de cette époque-là, ça l'est encore aujourd'hui. Puis j'ai vu chez mes enfants, mes premières filles, entre autres, j'ai vraiment vu ce que ça faisait, en fait, quand il y en avait trop. Puis là, bien, trop de jouets, trop de matériel, moins de nature, un petit peu plus de choses, un peu plus d'objets, un peu plus de télévision, d'écran, moins de nature, moins de mouvement, moins d'attention, plus d'anxiété. Plus de difficultés à l'école, j'ai vraiment vu cette équation-là se dérouler sous mes yeux de façon impressionnante. Alors, j'ai pris la décision, quand mes enfants étaient très jeunes, mes deux premières étaient très jeunes, de changer de cap, vraiment, puis de me dire, OK, là, on revient à l'essentiel, c'est pas ça que je voulais, c'est pas comme ça que je voyais ça. Tous mes rêves de maman sont encore là, je veux qu'on soit proche de la nature, je veux qu'on soit proche de la terre, je veux que mes enfants se sentent bien. Fait que là, on a commencé à enlever du matériel. Oh, qu'est-ce que ça fait? Moins d'écran, je joue plus dehors, plus de mouvement, moins d'anxiété, des meilleurs apprentissages. Fait que ça a fait du sens immédiatement. Puis ben là, j'ai fait ça avec mes enfants. C'est devenu un jardin d'enfants. Là où j'ai décidé d'offrir tout ça. En fait, là, j'avais changé mes jouets en plastique pour des jouets en bois. J'avais changé mon approche pédagogique avec elle. Puis j'ai voulu l'offrir à plus d'enfants. Fait que là, j'ai ouvert le jardin de Julie il y a plus de 15 ans déjà, qui a accueilli des douzaines d'enfants pendant cette quinzaine d'années-là d'exploitation de ce merveilleux jardin d'enfants-là qui était en nature.
C'était à quel endroit?
À Jonquière.
À Jonquière, OK.
Ben, Chicoutimi au début, puis après à Jonquière, au Saguenay. Puis là, ça s'est avéré être mon fantastique laboratoire de vie, d'éducation, de nature, parce que j'avais tellement d'enfants qui venaient, puis tellement d'enfants différents, puis ça l'a comme attiré, étant donné que c'était alternatif, puis que dans ce temps-là, il n'y avait rien d'autre qui se faisait comme ça. Il n'y avait aucun autre garderie alternative. Il n'y avait pas rien qui se rapprochait même un petit peu d'un milieu de vie qui est basé beaucoup sur qui est un écosystème de vie, qui est basé sur l'écosystème de la Terre, qui est l'écosystème des saisons. Il n'y avait rien de ça qui existait. Il n'y avait pas, tu sais, on avait l'alimentation biologique organique, on cuisinait, je les faisais jardiner, on chantait, on faisait tellement de choses, comme dans l'ancien temps un peu. Où est-ce qu'on était dehors tout le temps, été comme hiver, puis il n'y avait rien d'autre. Pendant toutes ces années-là, j'étais seule. Puis j'avais une super longue liste d'attente. Les parents attendaient pendant des années avec l'espoir. Puis finalement, leur enfant avait l'âge d'aller à l'école quand j'avais une place. Fait que c'est vraiment ça qui s'est tissé. Puis au travers de ce jardin d'enfants-là, j'ai eu plusieurs enfants qui avaient des défis d'apprentissage, de comportement, d'attention, des troubles de l'autisme, des troubles de Gilles de la Tourette, des troubles d'anxiété, tous des diagnostics qui se sont avérés diagnostiqués. Puis ça, ben ça m'a... Et puis j'ai eu des enfants aussi avec des particularités sur mes quatre enfants. Ça m'a vraiment fait réfléchir vraiment beaucoup de comment on peut faire pour accompagner ça d'une façon holistique, d'une façon systémique, avec une vision vraiment. Fait quand un enfant avait un certain genre de comportement, j'essayais toujours d'aller voir en arrière de ça, puis en arrière de ça, toujours en arrière de ça, pour essayer de trouver la source puis la racine un petit peu de qu'est-ce qui était là. Puis au travers la nature, la forêt, le plein air, la vie simple où il n'y a pas d'écran, on fait les choses par nous-mêmes, on est dans la bienveillance du quotidien. On essaie d'aller nourrir ces enfants-là et tous leurs petits défis. Puis bien, ça a été un drôle de cheminement de me rendre compte, en fait, que c'était cette équation-là. C'est que plus on est dehors, plus on bouge, déjà mieux on va. puis moins on a d'anxiété. Puis que souvent, les enfants qui faisaient beaucoup d'anxiété, puis ça, c'est des observations que j'ai faites laboratoire, là, à force d'être avec les enfants temps plein, 7 jours sur 7 pendant des années, que les enfants qui avaient une tendance à être, mettons, plus anxieux, bougeaient moins, étaient plus figés ou plus combattants en troupe d'opposition. Puis comment on se rend compte de ça? Je leur faisais faire des mouvements. Ah, c'est drôle, les enfants qui ont des difficultés de langage, souvent, sont sensibles des pieds. Je m'étais rendu compte de ça. Souvent, les enfants qui ont de la difficulté à écrire font tel genre de choses. Puis là, je faisais des liens, puis des liens. Puis en tant qu'éducatrice, mais aussi en tant que maman, avec mes enfants. Puis en me rendant compte que ben plus on bougeait, plus on avait de stimulation sensorielle, mieux on va. Plus on est ouvert, plus on a d'attention, plus on a d'écoute, plus on se sent engagé dans le monde qui nous entoure, dans la terre qui nous entoure et dans les humains qui nous entourent, les animaux, les plantes. Fait que la connexion augmente. Fait que là, j'ai décidé de faire des formations plutôt neuroscientifiques d'intégration des réflexes primitifs, de Brain Gym, pour vraiment aller valider tout ça, puis apprendre comment, de façon plus spécifique, comment intervenir, mettons, de façon thérapeutique sur ces besoins-là spécifiques de ces enfants-là qui avaient des diagnostics puis toutes sortes de choses, en fait. Puis là, ben ça a été la révélation pour moi parce que je me suis rendu compte que j'étais sur la bonne piste, que ce que j'observais, c'était vrai, que c'était juste qu'il y a des réflexes sous les pieds qui sont reliés au développement du langage, puis il y a des réflexes dans les mains qui sont reliés à l'apprentissage de l'écriture, puis qu'il y a des réflexes comme ça de tout partout dans notre corps qui sont reliés aux défis que ces enfants-là vivaient. Et là, ben, c'est comme ça qu'est née l'approche Koala. Puis c'est ça aussi qui... l'approche Koala, qui est mon service de consultation à la clinique Freud, où j'accompagne les enfants qui ont des défis. Puis on retourne à cette base-là, puis on essaie d'aller regarder ces réflexes-là, leur façon de bouger, l'impact, l'importance de la nature dans leur vie, puis on essaie de remettre le mouvement naturel, sauvage, libre dans ces corps-là pour que les cerveaux réfléchissent mieux et qu'ils soient plus connectés dans le fond.
T'as tout découvert ça tout seul, juste à partir de tes observations. Wow!
Moi, je voulais être médecin. J'ai voulu être chirurgienne du cerveau. Là, quand j'avais 12 ans, je disais je vais être chirurgienne du cerveau. Je me suis toujours intéressée à la neuroscience, en fait. Je viens d'une famille qui avait beaucoup ces intérêts-là de science, de santé, de nature. Fait que c'était un peu en dedans de moi. Là, ma mère, elle me disait, ben, tu sais, si tu te sens pas bien, il faut que tu boives de l'eau, il faut que tu bouges. Puis ça a fait partie vraiment de l'éducation que j'ai eue, l'éducation que j'ai transmise à mes enfants. Comment l'approche Koala est arrivée, c'est ça. Mais il y a aussi eu les enfants de la Terre. Ça s'est comme détaillé en deux branches. Fait que l'approche de consultation, c'est une branche. Puis là, après, toute l'autre branche qui est la portion vraiment comment on transmet ces informations-là, fait que par des formations, de la guidance, mon rôle de conseillère éco-pédagogique dans les nouveaux milieux de garde, parce que maintenant, il y en a des nouveaux milieux de garde qui développent ces approches-là grâce à la pédagogie par la nature, l'arrivée de la pédagogie par la nature au Québec qui est arrivée à peu près 2 ans seulement.
C'est tout nouveau.
C'est très, 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 très nouveau. Puis la pédagogie nature, c'est extraordinaire. C'est pas toute l'approche Koala. Là. C'est vraiment remettons l'enfant et la nature ensemble. Puis remettons l'adulte dans une position de co-apprenant. Tout le monde ensemble. Puis on va se faire du fun. Puis on va se rendre compte qu'on apprend. Puis on n'a pas besoin d'être tant que ça encadré. Fait que.
On va être plus en santé.
On va être plus en santé, oui.
Plus en santé, plus heureux aussi, parce que quand je t'ai approché, quand on correspondait ensemble, on échangeait des courriels, tu me dis, puis ça m'a beaucoup touchée, qu'un de tes objectifs, c'est de donner du bonheur, d'offrir du bonheur à tout le monde et aux enfants en particulier.
Bien, il y a aussi à travers tout ça, cette réalité-là de la Terre, de l'état de la planète actuellement. La crise climatique qui est extrêmement grave et urgente, c'est une menace, c'est la menace la plus lourde qu'on a jamais eue sur notre tête d'humain. Puis moi, je vois vraiment l'éducation de ça, l'éducation à l'enfance, l'éducation avec un grand E, là, la vraie éducation, celle qui met l'enfant dans la nature, qui met les enseignants, les parents, tout ça comme un clan autour de l'enfant, tout le monde ensemble. Je vois ça comme quelque chose qui est absolument fondamental pour l'avenir. Comment on enseigne aux enfants de l'aimer, cette planète-là, d'en prendre soin? Comment on va leur donner les outils pour faire face à la situation qui s'en vient pour eux, parce que pour eux, ça va être... si on se projette dans 20 ans, les tout petits d'aujourd'hui, dans 20 ans, c'est eux qui vont prendre les décisions puis qui vont avoir à prendre la planète comme on va leur avoir laissé. Alors, tu sais qu'aujourd'hui, tout le monde est en train... les scientifiques nous disent, on est vraiment en train de rentrer dans le mur. Ce qui s'est passé en Colombie-Britannique dernièrement, les feux, les changements de température, ça devient de plus en plus évident dans des places confortables, même comme le Canada.
Mm-hmm.
Fait que pour moi, l'éducation, c'est pour rendre heureux, mais c'est pour faire du sens. Puis je pense que les deux sont reliés, le bonheur et la conscience et l'amour et l'éducation, tout ça, je pense que ça va ensemble.
On va faire une petite... on va revenir aux enfants tout de suite dans quelques minutes. Avant, j'aimerais ça peut-être de porter plus philosophique. De quoi on se prive quand on se coupe de la nature, adulte et enfant?
Oh, c'est une bonne question. Mais qu'est-ce que la nature? Déjà, on peut se poser la question, qu'est-ce que la nature? Est-ce que la nature, c'est la forêt au coin de la rue, le petit espace vert dans notre quartier, la plante verte qui est accrochée dans le coin de la maison? Bien, certainement que ça fait partie de la nature. Mais pour moi, la nature, c'est complètement tout ce qui nous entoure. Et puis, ça va au-delà de la Terre. Pour moi, la nature, c'est l'univers au grand complet. Rien de moins. Pourquoi c'est différent? Pourquoi ça ne serait pas l'univers au grand complet? Pourquoi la nature, ça s'arrêterait à l'espace matériel de notre planète?
Fait que si... Et on en fait partie de cette nature-là.
Et on est une partie de cette nature-là. C'est pas à l'extérieur de nous. Fait que nous, on est la nature est nous. Tout ça, c'est un écosystème. Dans tout écosystème vivant, si on regarde ça avec des lunettes de la bio, de la biologie, et tout écosystème vivant est composé d'une panoplie d'acteurs qui s'inter-influencent, qui sont interconnectés et qui sont interdépendants. Notre place dans la nature, c'est celle-là. C'est celle-là d'être un acteur qui est influencé par les autres et qui influence les autres et qui est dépendant des autres. On est extrêmement dépendant de l'eau, de l'air, des plantes, de l'oxygène, de ce que la Terre peut nous donner pour nous nourrir. Mais on a aussi un rôle à jouer dans cet écosystème-là, dans cet équilibre-là. Fait, qu'est-ce qui arrive si on est privé de nature? C'est comme si on disait, si on enlève tout, fait que ça fait plus de sens du tout. En réalité, je pense que la nature pourrait vivre sans nous, mais je pense que nous, on ne peut pas vivre sans la nature, ça, c'est sûr.
Moi, je fais partie des gens, j'ai eu la chance, enfant et adolescente, de passer une partie de l'été dans un chalet, dans la nature, avec mes cousins et mes cousines, et de passer des journées dehors, et c'est probablement mes plus beaux souvenirs, les plus beaux souvenirs de ma vie, tu sais, c'est... On apprend, on expérimente, on sent, on goûte, on joue, on grimpe, on tombe. Tu sais, c'est riche, c'est complet.
Bien, d'un point de vue neurologique, mettons qu'on regarde tout ce que tu viens de nommer. Le cerveau, ce qu'il a besoin, notre cerveau d'humain, d'animal humain, il a besoin de stimulation sensorielle pour se développer. C'est les stimulations sensorielles que tu viens de nommer qui permettent au cerveau de faire des connexions neuronales. C'est comme ça que les connexions neuronales se font. Pas par la répétition, pas en forçant les enfants à faire des trucs, en leur faisant répéter des dictées par cœur. C'est pas comme ça que le cerveau humain se développe. Il se développe au travers des stimulations sensorielles. Donc, la nature est la plus grande et merveilleuse pourvoyeuse de stimulations sensorielles. Ça n'a rien à voir avec une maison. Là, quand on est dehors, la panoplie, c'est la palette d'infinité de nuances, d'odeurs, de toucher, de couleurs, de sons, de sensations, les vents, les rayons du soleil, comment tout ça au travers des saisons, en plus qu'on a la chance d'avoir 4 saisons au Québec. Cette panoplie d'infinité-là de nuances nous amène une infinité de nuances dans nos connexions neuronales parce qu'à chaque fois qu'on capte quelque chose de sensoriel, notre cerveau crée une connexion neuronale. Fait que si on compare ça avec une maison, moi, je dis que les maisons, c'est des boîtes d'isolation sensorielle. Dans une maison, c'est opaque, c'est plat. Ça sent ce qu'on a cuisiné peut-être ou ça va sentir si on a mis un branché ou une huile essentielle, mettons. Les planchers sont lisses. Il y a peu de sensations. Tout est fait pour être confortable. Quand c'est très confortable, c'est peu sensoriel. Fait que si on s'assoit dans le divan, mais qu'on ne sent pas trop rien parce que le divan il est moelleux, qu'on a des tapis, parce que c'est doux, ça ne fait pas de bruit, notre cerveau est peu stimulé. Et notre cerveau est peu stimulé. On développe moins de connexions neuronales dans une maison que quand on est dans la nature.
Alors, tu es en train de nous dire que notre cerveau et nos neurones n'aiment pas le confort.
On pourrait dire ça. On pourrait dire ça. À l'intérieur de notre cerveau, je fais une nuance quand même intéressante, à l'intérieur de notre cerveau aussi, on a des réflexes de stress, nos réflexes de protection. Eux aiment quand même le confort. Fait qu'il faut faire la balance entre les deux. Le but, c'est pas d'être tout un ou tout l'autre. On a besoin pour que notre système de garde intérieure de stress, nos réflexes de Moreau, notre réflexe de paralysie par la peur, qui sont nos réflexes qui nous font fuir, figer ou combattre là, le fight or flight, nos réflexes de stress, bien, si on est constamment en adaptation, ça va être un petit peu plus élevé. Fait que si on manque trop de confort, bien, ça peut être quand même un enjeu aussi. Mais disons qu'on a besoin suffisamment de stabilité et de sécurité, mais d'abondante stimulation sensorielle qui nous provient de la nature. C'est pas pour rien qu'on raconte ça. Moi aussi, mes meilleures vacances, bien, toutes mes vacances, les seules vacances d'été que j'ai connues comme enfant, c'était du camping sauvage.
Okay.
Puis, je viens d'une famille qui avait un revenu modeste, puis des parents qui adoraient la nature, puis c'était parfait. On allait dans la nature pendant 3 semaines, 1 mois, sans électricité. Là, c'était pas dans une roulotte, c'était en tente, pas d'électricité, même pas accès à des toilettes là, normales puis des douches. Là. C'était vraiment rustique. Puis on sortait pas du bois pendant ce temps-là là, pour aller... Ma mère réussissait à faire des provisions qui allaient rester froides. La glacière était complètement remplie de trucs congelés qui s'embriquaient les uns dans les autres. Puis on prenait ce qui dégelait. Puis j'ai fait ce genre de camping-là à partir de ma première année de vie jusqu'à... C'est encore ça que je vais faire dans une semaine. Fait que pour moi aussi, puis je pense que ça parle. Pourquoi que les enfants aiment tellement ça, le camping? Pourquoi on se sent tellement bien quand on se donne le temps d'aller vraiment entrer en connexion avec la nature? Bien, il y a beaucoup d'explications, je pense, à ça. Mais une, entre autres, c'est que notre cerveau adore ça. Notre cerveau a besoin de ça pour se sentir stimulé, pour se sentir apaisé, pour trouver du confort, de l'attention, de la concentration, de l'imagination, de la créativité. Tout ça, ça nous vient quand notre cerveau se sent en paix. Notre cerveau se sent en paix quand il est stimulé sensoriellement.
OK.
Devant un ordinateur, là, ça ne fonctionne pas. Quand on est devant un ordinateur toute la journée, on n'est pas stimulé sensoriellement. Il y a combien de gens qui font de l'anxiété de nos jours?
C'est un problème, c'est un immense problème dans nos sociétés aujourd'hui, l'anxiété.
Tellement. C'est rendu le premier motif de consultation, c'est le stress et l'anxiété, par exemple en psychologie et tout ça. Mm-hmm. C'est presque tout le monde, j'ai l'impression, quand on pose la question aux gens autour de nous, c'est les enfants que je vois, des tout petits enfants en consultation avec l'approche Koala, ils ont 4, 5 ans, 6 ans, ils ont commencé la maternelle et ils ont déjà de l'anxiété. C'est inquiétant.
Oui, non, c'est inquiétant. Moi, j'ai 2 ados, puis mon plus jeune qui a 15 ans, il me dit souvent, il dit « Mom, il dit, à l'école, j'ai plein d'amis qui ont de l'anxiété. Il dit, comment ça se fait?
Ben, » Bien, comment ça se fait? On pourrait parler des écrans. La nature, c'est très loin des écrans. Les écrans prennent énormément de place de nos jours. Qu'est-ce qui est stimulé sensoriellement quand on tient un cellulaire dans nos mains pendant des heures et des heures et des heures par jour? Puis là, on ne parle pas de tous les autres effets d'addiction, de comparaison, des réseaux sociaux, puis tout ça, là. Mais quand on est figé comme ça, même nos yeux sont faits. Nos gènes s'attendent à quelque chose. Notre corps s'attend pour être en santé, il s'attend à la santé. Fait que notre corps s'attend à être en mouvement, s'attend à chercher des plantes comestibles, s'attend à se pencher pour s'occuper des enfants, s'attend à s'étirer pour cueillir des choses dans les arbres, s'attend à courir de temps en temps. Il s'attend à devoir constamment percevoir le temps, la météo, les couleurs, les textures, les odeurs pour pouvoir s'orienter, se protéger, s'organiser. Il ne s'attend pas à fixer quelque chose comme ça. Puis quand on est là avec notre cellulaire dans les mains pendant une heure de temps, notre cerveau, il fait comme « Hey, y a-t-il un danger? Qu'est-ce qui est en train de se passer là? Pourquoi tu fixes cette affaire-là? » Parce que dans la nature, ça serait quoi la raison qui nous ferait s'arrêter et fixer comme ça? Bien, c'est quand il y aurait un problème.
Un animal sauvage ou on est perdu ou quelque chose comme
Exactement.
Ça.
Exactement. Il faut analyser ce champignon-là. Il est-tu toxique ou il est bon? Cette plante-là, c'est-tu la bonne? C'est-tu celle qui va nous nourrir ou nous soigner ou c'est pas exactement celle-là? Ou la blessure que quelqu'un a, puis que là, notre attention devient focale, puis on s'occupe de ça. Mais sur notre cellulaire, chose qu'on fait la plupart, tout le monde, à tous les jours, ben notre cerveau, il fait comme non, 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 il est en train de se passer quelque chose, là. Il est en train de se passer quelque chose, il y a un problème si tu fixes ça comme ça, mais fait que ça génère vraiment beaucoup d'anxiété. Et c'est complètement pas naturel, même si on pourrait se dire que, ben, tu sais, il y a. Je pense que rien n'est tout noir et tout blanc. Là. La communication, c'est intéressant. C'est un autre débat d'aller creuser ça.
Ouais.
On peut stimuler la santé en utilisant ces technologies-là qui sont là aujourd'hui partout. Mais,
Dans tes expériences live sur le terrain, est-ce que tu as pu voir des enfants anxieux à la base qui déstressent et qui deviennent moins anxieux au contact de la nature?
Oh mon Dieu, ben c'est le cas de pratiquement tous les enfants. Les enfants, ils retombent, c'est comme ils retombent rapidement dans cette attente-là de leur espèce. C'est notre attente. Notre corps s'attend à ça. S'attend à marcher nu-pied. S'attend à être dehors sous la pluie. S'attend à se baigner dans un lac puis que c'est froid. S'attend à se faire piquer par les maringouins. Il s'attend à ça. C'est naturel. On est des animaux. Il n'y a pas de raison à ce qu'ils ne s'attendent pas à ça. De la même façon que les petits chatons s'attendent à ce que les mamans chattes s'occupent d'eux d'une certaine façon. Les bébés éléphants s'attendent à ce que leur clan d'éléphants s'occupe d'eux d'une certaine façon. Fait quand on prend des enfants, même si, s'ils ne viennent pas nécessairement d'un milieu où il y avait cette pédagogie-là par la nature, mais cette approche nature-là, puis qu'on les remet dedans, ça arrive, dépendamment de ce qu'ils ont entendu avant, de la position des parents. Ça m'est arrivé souvent de constater qu'il y avait des enfants sur le coup qui ne voulaient pas, par exemple, se salir, qui ne voulaient pas enlever leurs souliers, qui refusaient de marcher dehors, ça leur faisait faire de l'anxiété. Ou qui ne voulaient pas, absolument pas être dehors s'il y avait de la pluie, parce qu'ils sont comme rendus déconnectés de ça. Mais ce n'est pas long revenir sur ce chemin-là, parce que tout le corps, en réalité, tout le cerveau, c'est ça qu'il veut. Fait qu'avec la bienveillance, beaucoup de patience, beaucoup de bienveillance, une approche très douce, très positive, légère, où on n'a pas besoin de tout expliquer non plus. Juste le faire devant les enfants, être dehors. « Hey, il pleut, j'ai envie d'aller voir quelle température c'est. C'est une pluie chaude ou c'est une pluie froide? Allons voir! » Moi, je sortais même dehors avec les enfants l'hiver. Quand il y avait toujours au début, quand on a une garderie, surtout avec beaucoup d'enfants, ben même les parents avec des fois juste un enfant vivent ça. Les débuts de l'hiver, comment ça peut être difficile de les habiller parce que là, il y a plein de couches à mettre, là, c'est long. Il y a toujours une période de transition. Moi, j'aimais beaucoup, beaucoup, avant de s'habiller pour sortir dehors, je disais aux enfants, allons voir dehors. Fait qu'on enlevait nos bas, puis on sortait sur le balcon. Pas longtemps, là. Puis tu sais, il y en a qui voulaient pas le faire. Il y en a que, par anxiété, il y en a un que je me souviens qui a jamais voulu l'essayer. Mais la plupart, sur le coup, étaient très, très surpris de cette proposition-là. Puis finalement, se laissaient prendre au jeu. Et puis là, hey, on va voir les deux pieds nu-pieds dans la neige. 5 secondes. T'as pas besoin, après, de dire quoi que ce soit. Habillons-nous pour sortir dehors. Oh, moi, je vais mettre mes bottes. Puis ça devient naturel. Moi, je vais mettre mes bottes. Puis les enfants, par eux-mêmes, par expérience, par connexion réelle, qui n'est pas juste une connexion neuronale, mais qui est une connexion à la vie, là, une connexion à la réalité, une connexion à leur corps, prennent les bonnes décisions. Fait que remettre les enfants dans la nature très rapidement, cette stimulation-là accrue, sensorielle, neuronale, mais cette stimulation-là accrue de connexion à soi, ce que ça fait, c'est que les enfants apprennent à se connaître, bien plus que dans une maison avec des jouets en plastique. Sortons dehors, allons marcher dans les bois. Qu'est-ce qu'on entend? Puis là, les enfants se développent, apprennent à se connaître. Puis ça, c'est peut-être le but ultime même de l'éducation, c'est d'apprendre à se connaître. Pour pouvoir développer une connexion profonde à soi-même, pour pouvoir être connecté aux autres et pour pouvoir être connecté à la Terre. Mais ça commence avec une connexion en soi-même. Puis cette connexion-là en soi-même se fait avec la nature, selon moi.
C'était intéressant tout ça. Ça me fait penser aussi par rapport à la neige puis marcher nu-pied dans la neige. Il y en a qui paient des dizaines de milliers de dollars pour aller dans des spas spécialisés pour aller se rouler dans la neige.
Ah oui, puis j'ai vu, tu sais, il y a d'autres pays aussi nordiques. Le Canada, c'est un pays nordique qui ne se comporte pas comme un pays nordique, mais il y a plein d'autres pays nordiques là, dans le nord de l'Europe qui ont des pratiques vraiment où j'ai vu par exemple des jardins d'enfants où les enfants sortent en hiver en bobette, avec des chaudières d'eau chaude. Là, ils courent dans la neige. Après ça, ils vont se réchauffer avec de l'eau chaude. Ils courent, puis c'est comme un bain nordique, là, comme on fait dans le Canada, par exemple. Mais c'est accepté à l'échelle nationale, on va dire. Puis tout le monde sait que ça fait du bien, puis que c'est stimulant, puis c'est revigorant pour la santé. Mais ici, mon Dieu, on est rendu dans un monde où, mettons qu'on exclut toute l'approche de la pédagogie nature qui est en train de brasser les idées là, populaires, mais on est encore, tu sais, faut que tu mettes des bas, sinon tu vas attraper le rhume, tu peux pas sortir sous la pluie parce que tu vas être mouillé, puis tu peux pas faire ci, puis tu peux pas... C'est ça quand même qui est la mode, qui est comme une mode un petit peu de surprotection des enfants pour essayer d'éviter qu'il leur arrive quelque chose.
C'est se couper de la vie.
Ben oui.
La pluie, ben oui, c'est... OK. Dans ton approche, dans la pédagogie par la nature, je t'entends parler aussi de pédagogie lumineuse. Juste oui. Le mot est absolument divin. Peux-tu nous en parler un peu plus? C'est quoi des pédagogies lumineuses?
Ah, mais il y en a plein. Tu sais, je pense que notre rôle, c'est pas de réinventer la roue, mais une des pédagogies, il y en a plein, en fait, moi, qui m'ont inspiré. Par exemple, la pédagogie Waldorf, qui vient d'Allemagne avec Rudolf Steiner, qui vraiment, je fais la parenthèse tout de suite, j'adhère pas à l'ensemble de son œuvre. Lui, il a écrit une centaine de livres, il est allé dans plein de directions différentes. C'était vraiment un artiste. On pourrait dire que c'était vraiment un artiste. Mais du point de vue de l'éducation, c'est extrêmement lumineux. Il a apporté, lui, cette idée-là du corps, du cœur, de la tête, d'occuper les mains, de nourrir le cœur, de nourrir le corps. C'est comme s'il n'y avait pas encore les informations neuroscientifiques. Mais à force d'observer les enfants, il s'était rendu compte que les enfants vont mieux quand ils bougent dans leur corps, quand leur cœur est touché, puis quand leurs mains sont en action. Puis ça, c'est la fondation pour pouvoir après développer des idées. Fait que toute la pédagogie Waldorf, c'est extraordinaire. C'est très écologiste comme approche. C'est très simplicité volontaire. C'est très faire les choses par soi-même. Minimaliste, les éléments de la nature, les éléments de la terre, que l'enfant a besoin d'être en contact parce que c'est sa terre, parce qu'il est un terrien sur une planète Terre, puis que sur la Terre, il y a des roches, il y a des métaux, il y a de la laine, il y a du coton, il y a ces choses-là, puis l'enfant doit apprendre à vivre avec ça puis à les connaître. Fait que ça, ça en est une. Qui m'a beaucoup inspirée, les jouets en bois. Là, il y a des super belles choses là, dans le monde Waldorf. Il y a des belles choses qui ont été créées, des beaux jouets, des arcs-en-ciel en bois, genre qu'on voit un petit peu partout. Mais l'idée derrière ça, c'est pas tant l'esthétisme que les jouets ouverts. Que lui, il se disait, ben c'est bien mieux en fait que l'enfant puisse utiliser des objets qui ne servent pas à quelque chose en particulier, puis dont lui va pouvoir par lui-même créer un sens. Donc, au lieu de donner, par exemple, une caisse enregistreuse, on va lui donner peut-être juste une boîte. Puis, il y a peut-être juste des pastilles de couleurs dessus. Il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas tant de fonctions que ça. Mais qu'est-ce qu'il va faire avec cette boîte-là? Bien là, il peut inventer un millier de jeux avec celui-là. Tandis que la caisse enregistreuse va servir juste à une caisse enregistreuse. Ça, c'est la pédagogie Waldorf que je pourrais parler pendant vraiment longtemps, qui est très nourrissante. Je trouve que c'est une approche lumineuse parce que il y a quelque chose de thérapeutique dans cette approche-là. Des enfants qui sont arrivés près de moi puis qui avaient soit besoin d'attention, qui avaient besoin... Il y avait quelque chose... C'était difficile à cerner, mais il y avait quelque chose... Il y avait comme une souffrance à l'intérieur. De se retrouver dans la nature, de réduire le nombre d'objets, de leur donner la chance de créer des choses à partir de qui ils sont, de travailler par leur cœur, les contes merveilleux, la lecture des contes merveilleux, tout ça, c'est quelque chose qui a vraiment apporté vraiment beaucoup. L'approche Montessori, que j'aime aussi beaucoup, qui est, je trouve, un peu édulcorée ces temps-ci de façon populaire, mais en fait, ce qui est le cœur lumineux, je trouve, de cette approche-là, c'est quelque chose qui s'appelle isoler la variable. Il n'y a pas beaucoup de gens, je pense, qui ont vu de cette façon-là, mais... On isole la variable, autrement dit, dans tous les processus, apprendre, mettons, à attacher ses souliers, apprendre à mettre la table, apprendre, c'est qu'il y a des choses de la vie pratique qui sont très, très intéressantes que l'enfant peut faire et va développer. Mais Maria Montessori, elle disait, bien, il y a des fenêtres d'apprentissage, puis là, l'enfant va développer, par exemple, l'ordre entre tel âge et tel âge, puis tout ça. Tout ça, c'est vrai, je trouve que tout ça, c'est beau, mais ce qui est lumineux et vraiment qu'on peut s'approprier très facilement cette idée d'isoler la variable, c'est... Bien, dans un processus, mettons avec un enfant en général qui a eu la chance d'être dans la nature et qui a vécu plein d'expériences, on n'a pas besoin de tout y décortiquer en isolant les variables. On n'a pas besoin de décortiquer chacune des étapes, mettons, pour comment on met les souliers. Il va regarder les autres faire, puis il va finir par le faire. Puis ça, c'est suffisant. Mais chez certains enfants, puis c'est pour ça qu'elle avait été créée, cette pédagogie-là aussi, c'était pour des enfants qui étaient défavorisés à la base. là, des enfants qui étaient défavorisés, qui avaient manqué d'expérience, qui manquaient de connaissances d'eux-mêmes. Fait que là, on veut venir chercher quelles variables il manque dans les processus. Pourquoi il n'arrive pas à les mettre ses souliers? Puis là, on va décortiquer le processus avec un petit cadre, puis des petits fils, des lacets. Puis là, on décortique étape par étape dans cette approche-là. Puis là, l'enfant qui manquait le petit bout va aller le chercher, puis il va pouvoir compléter sa séquence. Ça fait vraiment du sens, puis c'est super lumineux parce que c'est une approche qui est super bienveillante, c'est au rythme de l'enfant, tout ça. Mais je trouve que, tu sais, tout ça en soi, il n'y en a pas une qui est nécessairement meilleure que les autres, mais c'est des lumières pour nous nourrir dans notre façon d'accompagner les enfants. Il y a l'approche anarchiste. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Quand on dit anarchie, ça fait « wow », ça fait peur un peu. Hein? L'anarchie, c'est quoi l'anarchie, selon toi?
Ben, l'anarchie, c'est quand il n'y a pas d'organisation hiérarchique, quand il n'y a pas personne qui est le boss de personne, quand tout le monde s'auto-organise entre eux, j'imagine.
Oui, ben ça, c'est vraiment une super belle réponse. C'est ça, en fait, l'anarchie, c'est l'ordre sans le chef. Okay. L'ordre sans l'autorité, sans la dictature. Fait que c'est comme un écosystème dans la nature. Si on pense, mettons, à une forêt qui est un écosystème dans la nature, ben, il n'y a pas un des acteurs de la forêt qui est un chef. Pourtant, tout ça s'organise. Mais là, on peut s'approprier ça. Notre système digestif, c'est un écosystème. Notre système nerveux, c'est un écosystème. Notre système immunitaire, en ce temps de pandémie, c'est un écosystème. Il n'y a pas de chef. Fait que c'est vraiment tout le monde ensemble, on s'organise pour faire quelque chose qui va faire du sens. Puis dans une approche anarchiste avec l'éducation, par exemple, ben ça va être vraiment les adultes sont des co-apprenants, les enfants sont des co-apprenants. Puis tout le monde ensemble, on se laisse porter par ce qui se présente. Puis on va ensemble déterminer c'est quoi nos règles. On va déterminer ensemble c'est quoi nos façons de faire. On va avoir beaucoup d'espace. Bien là, il y a l'approche démocratique directe aussi. De pouvoir permettre aux enfants de vraiment s'exprimer beaucoup. Ça vient vraiment proche avec l'approche anarchiste aussi, de permettre aux enfants de déterminer. Ça fonctionne bien mieux dans une classe. Par exemple, j'enseigne aussi au cégep de Rivière-du-Loup dans le programme Éco-éducation par la nature. Puis je voulais donner cet exemple-là parce que c'est vraiment un exemple lumineux de ça. Il y a une étudiante qui partageait que dans l'école où elle travaillait comme professeure, il y avait cette classe-là d'enfants difficiles. Qu'un peu personne voulait prendre parce que c'était vraiment des cas, là, puis c'était vraiment quelque chose de difficile. Puis bon, un petit peu, avec un peu de désespoir, là, tu te dis, oh, pauvres enfants. Mais bon, on peut comprendre, ça peut vraiment être difficile d'être professeur avec 20-30 enfants qui ont des défis. Puis là, ben avec l'approche anarchiste que moi j'enseigne au cégep, elle a décidé de prendre la place là et de faire ça. Fait qu'elle a dit aux enfants, qui est une classe, je pense que c'était de 5e année du primaire, on va tout enlever ce qui est sur les murs. On enlève tout au complet. On nettoie tout ça. On enlève toutes les règles qui avaient été mises avant. Puis c'est des enfants quand même corsés, là, avec beaucoup de troubles d'opposition, puis tout ça. On enlève tout et on va recommencer ensemble en se basant sur ce que vous voulez. Comment vous voulez cette classe-là? Qu'est-ce que ça serait quoi vos besoins? Puis là, c'est un résultat, mais j'ai la chair de poule juste de t'en parler, là, mais un résultat complètement lumineux où les enfants, il n'y avait plus de crise, il n'y avait plus de troubles d'opposition. Les enfants avaient un espace pour utiliser leur drive parce qu'un trouble d'opposition, on peut l'interpréter de plusieurs façons. Hein?
De façon, oui.
On peut s'opposer aussi à ce qui ne fait pas de sens pour nous. On peut s'opposer à ce qui ne nous plaît pas, à ce qui ne nous fait pas du bien, à devoir rester assis toute la journée, à se faire dire quoi faire, à se faire dire de se taire. Fait que avec cette approche-là, j'ai une autre étudiante, elle, c'était dans un milieu de garde, fait qu'avec des enfants du préscolaire, par exemple, elle est arrivée avec une trampoline dans la maison parce qu'il y avait un des enfants très, très actif qui avait besoin de vraiment beaucoup bouger. Puis elle a dit, au lieu d'arriver puis de dire, bon, voilà, les règles, ça va être ça. Elle a demandé à des enfants de 3, 4, 5 ans, ça allait être quoi les règles? Et ils ont déterminé que les règles, c'était à cause que le trampoline était trop petit, ça ne pourrait pas être deux amis à la fois, puis que ça serait 5 minutes chacun. Il y en a un qui est allé chercher le petit timer, puis ils ont déterminé. Puis si les enfants déterminent leurs règles, on est sûr qu'ils vont les suivre. Parce qu'ils, puis ils vont les prendre vraiment à cœur. Fait que ça, c'est vraiment l'approche anarchiste.
Oui, non, je t'écoute. Je pense à mon ado, puis souvent, quand il y a des petites conséquences à lui donner, il préfère lui-même décider des conséquences, puis il suit plus les règles comme ça.
Ben oui, mais ça, en fait, c'est basé vraiment sur la nature. Fait que c'est basé sur la nature. Notre santé est basée là-dessus aussi. Notre santé, elle s'organise en prenant des décisions. Nos systèmes entre eux s'organisent en prenant des décisions qui vont faire l'affaire de tout le monde, tu sais, dans nos cellules. Des approches lumineuses, il y en a plein. Mais là, il y a la pédagogie émergente qui est de laisser les enfants nous mener plutôt que d'arriver avec une idée préconçue, comme dans les garderies où on dit bah, « cette semaine, c'est la semaine du zoo. On va parler du zoo. Puis là, la semaine prochaine, c'est la semaine du métier pompier. Puis là, on va parler des pompiers. » Puis là, c'est pas que c'est si toxique ou mauvais, là, mais ça, c'est un peu déconnecté de la réalité des enfants. Si on leur dit plutôt... Nous, on met la table, on va créer la forme autour d'eux. On dit, ben, tu sais, là, c'est l'été, mettons, ou c'est l'automne. Puis là, on les amène tranquillement dans quelque chose qui est naturel. Puis on laisse monter, on laisse émerger là où les enfants veulent nous porter. Fait que ça, c'est aussi une approche qui est très, très lumineuse. Puis c'est tout ça, en fait, toutes ces approches-là se mêlent ensemble de façon extraordinaire. Puis évidemment, il y en a plein d'autres. Puis l'approche neuroscientifique qui vient valider, qui vient valider vraiment... que l'enfant a besoin d'être dans la nature, a besoin de bouger, puis que quand il bouge, il est plus en santé.
C'est pas juste l'enfant, c'est l'adulte.
Et l'adulte
non, là, on parle des enfants, là, mais c'est les personnes âgées. Oui.
Absolument, absolument.
Ouais. On est fait pour bouger. Ça fait quelques fois depuis qu'on se parle que tu nous parles de réduire le nombre d'objets dans une société de consommation, voire surconsommation. C'est un concept intéressant que tu apportes là. Peux-tu nous en parler un peu?
Ben ouais, on est dans un monde où, moi, la façon que je le vois avec mes connaissances, justement, de neurologie, c'est que, ben l'humain a cette capacité-là à pouvoir accumuler. Hein. Ça a été utile quand on était complètement nomade. On s'est rendu compte que si on commençait à accumuler des choses, peut-être que c'était un petit peu plus confortable d'accumuler un petit peu de bois pour le feu, d'accumuler un petit peu de nourriture pour l'hiver, etc. Bon, on a cette tendance-là naturelle, puis ben là, dans les peuples du Nord, on va les appeler comme ça, c'est pas moi qui ai inventé ça, les peuples du Nord global, on est dans une posture où on a tellement consommé, puis là, je ramène à la crise climatique, je fais juste un clin d'œil, sur le dos des peuples du Sud la plupart du temps. Toutes les richesses et tous les biens montent par en haut, puis en bas, il reste pas grand-chose. Est-ce qu'on a vraiment besoin, comment on se sent quand on est entouré de plein d'objets. Il y a plusieurs pistes à ça. Bien, d'un point de vue spirituel, comment on se sent d'avoir... On a-tu autant besoin de ces choses-là? Qu'est-ce qui est en dessous? C'est là où je disais, moi, j'aime beaucoup me poser la question, qu'est-ce qui est en dessous? Qu'est-ce qui est en dessous? Mais qu'est-ce qui est en dessous de ça, cette accumulation-là de biens? Moi, je pense que c'est de l'insécurité, de l'anxiété. Puis là, on peut faire un petit dessin en forme de roue, là, de l'anxiété, de l'insécurité, du manque de nature, du manque de connexion, du manque de connaissance de soi, du manque de connexion aux autres, parce que quand on accepte d'acheter des choses fabriquées de façon abominable pour d'autres êtres humains, on n'est pas connecté avec ces autres êtres humains-là. Si on accepte d'acheter des objets qui détruisent la planète, on n'est pas connecté avec la planète non plus. Et si on est convaincu que c'est un besoin qu'on a et non pas juste un désir, ben là, on n'est pas vraiment connecté avec nous-mêmes non plus. Fait qu'il y a cette roue-là. Si on veut la déconstruire, ben on se rend compte hein, comment Feng Shui. Si on décide, par exemple, que dans notre bureau de linge, on vide un tiroir, qu'est-ce qui va se passer? Il y a quelque chose qui va apparaître. C'est comme on crée de l'espace. Dans l'univers, c'est comme ça. D'un point de vue astronomique, c'est comme ça. Si on crée un espace, bien, la nature a horreur du vide. Fait que créons de l'espace pour voir qu'est-ce qui va se manifester.
La nouveauté, faire de la place à des nouvelles expériences, à des nouvelles possibilités.
Oui. Avoir moins d'objets, ça veut dire faire plus soi-même. Ça aussi, fait que rester en mouvement pour rester en santé, ça veut dire continuer de faire les choses le plus possible à la main. Par exemple, dans une cuisine, on veut-tu vraiment avoir toutes les machines électriques pour faire chacune de ces tâches-là? Ou on peut encore fouetter la crème avec un petit batteur à main, puis piler les patates avec un petit pilon, puis écraser les graines avec un petit mortier, puis rester en action, rester stimulé dans nos sens, rester stimulé dans nos neurones. Puis se sentir moins anxieux, parce que plus on est stimulé dans nos sens, moins on fait d'anxiété. Les enfants, on le voit tout de suite, dans un espace où il n'y a pas beaucoup de choses. Si tu mets un enfant dans une pièce où il n'y a rien, imagine le cadeau que ça serait des familles qui auraient cet espace-là, qui pourraient garder une pièce vide dans la maison. Juste voir qu'est-ce qui va se passer. Imagine le mouvement qui va se créer, les danses, les courses, les jeux de tag, les roulades... Les chansons, les enfants vont s'approprier cet espace-là parce qu'il va avoir de la place pour être même là-dedans. Fait que je pense que je pense que par rapport à la santé, pour pouvoir favoriser le mouvement, pour pouvoir favoriser la santé des enfants et la nôtre, ça serait intéressant d'avoir dans nos maisons de la place pour bouger, de la place pour courir, de la place pour faire une grande roue si on veut, se mettre sur les mains, bouger en faisant ce qu'on a à faire. Là, tu sais, on a toutes des machines qui font toutes nos tâches, fait qu'on n'a même plus besoin de bouger. Puis on prend la voiture pour aller chercher d'autres biens de consommation, mais on devrait créer nos milieux de vie comme des espaces qui nous permettent de rester actifs.
Donc, que la maison, l'appartement ne devienne pas un lieu d'isolation sensorielle, mais qui puisse continuer à nous stimuler au niveau de nos sens.
Absolument. Imagine si le plancher, par exemple, au lieu d'être lisse et chauffé, c'était un plancher de petits galets là, moulés dans lequel on marche. On n'a jamais vu ça, une maison avec un plancher en galets ou une pièce que c'est du sable, puis... On pourrait tout inventer. On a été capable d'inventer des choses bien plus compliquées que ça.
Oui, ça, tu as raison. Ça, tu as raison. Ici, quand tu parles de mouvement, je pense que c'est important de préciser que mouvement, c'est pas faire d'exercice. C'est deux concepts différents, là.
Bien, faire de l'exercice, moi, je pense que c'est un peu la réponse moderne. On va se dire, on doit faire de l'exercice pour être en santé. Peut-être parce qu'on n'a plus beaucoup d'occasions. Pour moi, le mouvement, c'est un exercice qui se fait sans penser que on n'a pas besoin.
J'ai besoin de faire 30 minutes de cardio. Ouais,
non, c'est ça. Si on fait beaucoup les choses par soi-même, si on répare nos maisons par nous-mêmes, qu'on s'occupe de nos enfants par nous-mêmes, qu'on cuisine les choses par nous-mêmes, qu'on jardine par nous-mêmes, qu'on fait de la couture par nous-mêmes, on est en mouvement tout plein. On n'est pas en train de faire de l'exercice. Si je fouette ma crème par moi-même, est-ce que je vais me dire, bon, là, je vais faire un peu d'exercice avec mes bras, je vais fouetter ma crème? Pas vraiment. Mais je vais le faire parce que je veux avoir une crème pour faire mon petit gâteau aux fraises. Fait que je le fais, puis je vais marcher pour me rendre dans la cour chercher mes fraises, puis je vais les laver là, puis je vais... Fait que tous ces mouvements-là, un mouvement, moi, je pense que c'est quelque chose qui est libre, puis qui est sauvage dans le sens qui est instinctif, qui est... Notre attente, notre corps s'attend à faire des choses, s'attend à veiller à sa survie, à se nourrir, à se reproduire. Fait que le plus qu'on rentre des mouvements dans notre quotidien, sais-tu quand on n'en a plus assez des mouvements qu'on se dit, bon, ben là, je vais créer un espace, je vais mettre un bloc, je vais aller au gym, puis là, je vais faire de l'exercice. Parce que le reste du temps, malheureusement, je suis devant mon ordinateur.
Ordinateur, assis.
Assis derrière mon volant, dans ma voiture, 2 heures par jour dans le trafic, puis après ça, 2 heures devant mes séries Netflix. Fait qu'au moins, tu sais, j'ai ce bloc-là d'exercice au gym.
Ouais. OK. Tu as dit deux mots qui me font beaucoup résonner. Tu as parlé de mouvement libre et sauvage versus le... On est dans des sociétés, puis c'est vrai malheureusement aussi auprès des enfants, où tout est très normatisé. On a des normes pour tout, telle affaire à tel âge, telle affaire à tel âge. Cette manie-là ou cette habitude ou cette fausse sécurité de mettre des normes, ça répond à quoi? Ça brime quoi?
Ah ouais, mais... En pédagogie par la nature, on appelle ça la prise de risque.
OK.
Fait qu'il y a vraiment cette branche-là de cette pédagogie-là qui va être la prise de risque où on prend conscience, en fait, que plus ça va, moins on prend de risques. Moins les adultes prennent de risques et moins les enfants prennent de risques. Et ça nous aide pas dans notre développement. Ça nous aide pas. Bon, ça fait une apparence de sécurité. Est-ce que cette apparence de sécurité-là... vient encore une fois combler l'anxiété générale. L'anxiété générale de la société de toujours se sentir de plus en plus déconnecté, donc d'avoir l'impression de ne pas avoir le contrôle et de ne pas se sentir en sécurité. Mais la prise de risque, c'est super important. Dans les années 50, un enfant de 8 ans marchait en moyenne 8 km. Son périmètre de jeu, c'était un 8 km autour de rayon. C'est là qu'il pouvait aller, puis c'était comme ça, ou même pour juste aller à l'école. Aujourd'hui, un enfant de 8 ans fait environ 800 mètres.
Aïe, aïe!
Fait que c'est la prise de risque, là. C'est que là, les parents ont peur du kidnapping, ont peur de plein de choses. Les enfants doivent maintenant avoir des cellulaires parce que comme ça, les parents peuvent les rejoindre si jamais il y a quelque chose. Qu'est-ce qui a amené ça? Comme si le dehors était plus dangereux que le dedans. Alors que ben, dans le dedans, il y a la sédentarité. Il y a la télévision, il y a l'inertie, le manque de mouvement, les substances toxiques de tous nos objets, les émanations, la malbouffe. Il y a tellement de choses à l'intérieur qui peuvent ne pas être saines. Puis dehors, on a plus peur du dehors. Ça a été très médiatisé là, quand il y a eu des enlèvements, quand il y a on a comme, on dirait, dans notre société, cette grande crainte-là que nos enfants se fassent enlever. Puis je pense que c'est probablement une des premières choses où qu'ils se fassent mal puis qu'on ne soit pas là pour les aider. Alors que comment on devient bon en vélo en faisant du vélo, comment on devient bon en marchant en tombant 1000 fois avant, c'est comme ça le développement, c'est comme ça la vie, comment on devient bon à la conduite automobile en conduisant. L'écriture, la lecture et tout ce qu'on peut faire dans la vie, mais le mouvement s'acquiert par le mouvement, les connaissances s'acquièrent par l'expérience. Puis si on se prive de cette prise de risque-là, ben oui, c'est sûr que si ton enfant va au parc tout seul, dépendamment de son âge, là, puis tout ça, mais ça se peut qu'il tombe, ça se peut que quelqu'un vienne y parler. Mais dans la grande majorité des cas, des fois, tout est correct. Ça reste des minorités de fois, puis c'est comme si on comparait pas les pommes avec les pommes, mais on compare les risques qui sont très faibles de se faire enlever ou de tomber ou de se faire une commotion cérébrale tout seul avec tous les risques que ça a de laisser nos enfants finalement faire plus tôt 8 heures d'ordinateur à la maison parce qu'on sait qu'ils sont dedans puis que personne ne va venir les voir, tu sais.
Dans une autre entrevue que tu donnais, que j'ai écoutée, qui était vraiment super intéressante, tu parlais aussi, vous parliez d'études ou de recherches faites auprès d'autres peuples où on laisse les enfants libres de jouer avec des couteaux, de faire des expériences, de tirer au tir à l'arc alors qu'ils sont très jeunes, puis il n'y a pas de règles. J'aimerais ça que tu nous parles de ça.
Ah,
ça,
oui.
Ça m'allume beaucoup.
Ça, c'est extraordinaire. C'est le concept du continuum. C'est un livre à lire, vraiment, si ce sujet-là nous intéresse. Jeanne Liedloff, elle a écrit ce livre-là. Ça s'écrit comme Jean, là, comme au masculin. Oui. C'est Jeanne Liedloff. Elle est partie en Amérique du Sud. Elle était une jeune femme, là, dans ce début vingtaine. Elle n'était pas en train de faire des études, c'était pas dans le cadre d'un doctorat. Elle était juste inspirée par la nature, inspirée par les tribus qui vivaient là. Puis finalement, elle a passé plusieurs années avec le peuple Kekwana. Puis j'ai cherché sur Google, là, il sort même pas le peuple Kekwana, il n'est pas répertorié, on dirait, officiellement. Mais il y a le peuple Kekwana qui habite au fin fond de la jungle amazonienne. Puis elle a passé plusieurs années avec eux. Puis c'est ça, en fait, ce qui est sorti de ça, a été là pour observer. C'est comme, ça a été sa façon à elle, on dirait, de elle ne savait pas ce qu'elle allait, elle allait aller chercher là, mais elle se sentait attirée par ce qu'elle allait apprendre là. Et leur façon de faire avec les enfants et l'éducation, c'est complètement... c'est tellement lumineux et inspirant. Donc, c'est ça. Les enfants, c'est les petits garçons à 18 mois font du tir à l'arc.
Wow!
Les enfants, à partir de l'âge de 1 an, 2 ans, dès qu'ils sont à terre, prennent soin les uns des autres. Puis elle parle, en fait, ce qu'elle s'est rendue compte, c'est que l'humain, comme tous les autres mammifères, avait un instinct de survie. On a un instinct de survie. Et l'enfant qui vient au monde a un instinct de survie jusqu'à ce que l'expérience prenne le dessus. Comme les autres animaux, finalement. C'est sûr qu'il n'y a pas l'expérience quand il vient au monde. Il ne sait pas, lui, que cette plante-là est toxique ou que que le trou, mettons, qui pourrait tomber dedans parce qu'il ne l'a pas expérimenté. Mais il y a un instinct de survie qui va l'empêcher de faire certaines choses. Puis ce peuple-là, en fait, ce qu'ils font, une des choses qui est vraiment centrale, c'est qu'ils portent les bébés de façon permanente pendant les 7 à 9 premiers mois. Fait que l'enfant, il vient au monde et là, il est dans les bras de maman, de papa, de la petite sœur, du petit frère, du grand-père, de l'oncle, du chaman, de tout le monde. Les enfants sont portés en permanence. Et qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là? Premièrement, l'enfant est complètement intégré dans son écosystème. Il fait partie du clan. Il n'est pas jamais mis à côté comme quelque chose d'à côté qui est trop petit pour comprendre, trop petit pour voir. Il est intégré. T'arrives et vous... Puis là, quand tu es dans les bras de maman, tu vois certains genres de choses parce que maman, elle a fait certains genres de tâches. Puis quand tu es dans les bras de ton père, tu vois d'autres choses. Puis quand tu es dans les bras de ton grand-père, tu vois d'autres choses. Et là, c'est comme si temps plein, pendant 7 à 9 mois, l'enfant faisait un grand apprentissage passif de qu'est-ce qui l'attendait. Puis là, en dedans de lui, puis ça se corrobore bien avec les réflexes primitifs du cerveau. En dedans de lui, il y a comme une énergie qui s'accumule. Puis vers 7, 8, 9 mois, lui vient le besoin de l'utiliser et de se mettre à marcher à quatre pattes, de ramper puis de se mettre à quatre pattes. Puis c'est lui qui va manifester le mouvement de vouloir débarquer des bras quand il est rendu prêt à faire cette étape-là. Fait que là, il va descendre des bras. Puis là, le clan autour de lui, dans le fond, vont le laisser faire. Fait que là, l'enfant va se promener, il va s'éloigner. il va revenir, il va s'éloigner, il va revenir. Et il apprend très vite que s'il a besoin de quelqu'un de son clan, c'est à lui d'y aller.
C'est pas aux parents, non. Pas à l'adulte de devancer le besoin de l'enfant.
Bien, qu'est-ce que ça fait ça chez un enfant? Ça vient de donner raison qu'il est capable d'aller chercher de l'aide, qu'il est capable d'identifier où aller chercher son aide. Ça maintient sa volonté active, sa mobilité active. Fait que lui, trouver des solutions, c'est se mettre en action, faire quelque chose, bouger et aller chercher ce qu'il a besoin. Très jeune, à partir de l'âge de 7, 8, 9 mois. Et quand il a faim, il revient dans les bras de sa mère. S'il a peur, il revient voir sa mère. Puis toujours, toujours, il est accueilli. Fait que là, tu sais, ça vient avec ça. C'est que là, la mère, elle va pas dire « Attends un petit peu, ça va être plus tard. » là. C'est que quand il revient, par exemple, tout de suite, il est répondu instantanément, avec bienveillance. Tout de suite, il est dans les bras, il est rassuré ou nourri ou endormi ou peu importe. Puis ça, ben c'est fou. Elle donne l'exemple dans son livre d'un puits. Il y a un puits dans le milieu du village qui est un trou. Fait qu'il n'y a pas de clôture autour du trou. C'est très profond, là. Ça semble être quelque chose que pour nous, ça serait, oh mon Dieu, il faut tout de suite ériger une clôture autour de ça. Parce que t'as les bébés qui marchent à quatre pattes, là. Puis t'as les petits-enfants qui font du tir à l'arc. Puis t'as toutes les activités autour du village. Elle est autour du puits. Elle dit le nombre de fois que c'est arrivé, elle avait de la misère à se retenir, de ne pas intervenir. Que les enfants qui marchent à quatre pattes, c'est quand ils marchent à quatre pattes, puis ils commencent à s'asseoir. Puis là, ils s'assoient comme de reculons. Pouf. Elle dit ils s'assoyaient, puis ils arrivaient tout le temps juste sur le bord, tu sais. Mais il n'y a jamais, dans l'histoire du puits, c'est jamais arrivé qu'un enfant tombe. Puis ça arrive, il n'y a pas d'adulte autour du puits pour le surveiller, le trou. Tout le monde sait que l'enfant ne va pas faire ça. Fait que parce qu'ils sont convaincus que l'enfant ne va pas faire ça, l'enfant est bien moins enclin à essayer de l'essayer, de le faire ou de se mettre en danger parce que c'est tout ensemble. C'est un tissu social de confiance. On le sait que l'enfant ne va pas aller se mettre, il ne va pas aller trop loin dans la forêt. On n'a pas besoin de dire « va pas trop loin, il faut que je puisse te voir ». L'enfant il est habitué que s'il va plus loin, bien, s'il a besoin, ça va être compliqué de revenir. Fait qu'il dépend pas de la personne qui est supposée. Tu sais, comme ici, ben les enfants, ils s'attendent toujours à ce qu'on va surgir de partout. Il y a comme moins de connaissances si t'es toujours... S'il y a toujours quelqu'un
qui devant,
te
oui,
prend les devants, qui te protège, qui t'enlève du trou juste avant que tu aies eu la chance de te rendre compte que par toi-même, tu savais quoi faire.
Okay. Fait que,
oui, concept du continuum, le continuum humain, l'attente de l'espèce, le bébé qui s'attend à ce que dans son espèce, ça se passe de cette façon-là.
OK. Fait que ce que tu es en train de nous dire, c'est qu'en surprotégeant nos enfants, en devançant toujours leurs besoins, d'une certaine façon, on les coupe de leur intuition sauvage, libre, et on les coupe de leur essence. Oui.
Absolument. Puis on veut bien faire. Là, on s'entend que tout le monde en a fait ça. Moi, j'ai fait ça aussi. Puis il y a encore plein de monde qui font ça. Puis c'est comme ça dans notre culture. On a l'impression vraiment de bien faire, de bien soigner nos enfants, d'en prendre bien soin de nos petits trésors si précieux qu'on veut pas qu'ils soient malades, on veut pas qu'ils aient froid, on veut pas qu'ils soient mouillés, on veut pas qu'ils aient faim. Il y a toujours une collation dans une poche. Il y a toujours... Tout tourne autour de ça. Mais dans notre espèce de l'humanité, dans l'histoire de l'humanité... des 100 milliers de dernières années, c'est pas comme ça que ça s'est passé. On vient de changer les règles dans un espace de temps très court où les enfants sont le centre de l'univers et tout tourne autour d'eux et d'une façon très consommatrice. Ils consomment les enfants. On leur apprend à consommer l'attention des adultes, à consommer des biens. Tu veux pas ça? Tiens, je vais t'en donner un autre. Tu veux pas ça? Tiens, je vais te cuisiner d'autres choses. Ah, tu t'ennuies? Tiens, viens, je vais te mettre un petit film. Ah, tu veux pas ça? Tiens, je vais faire ça pour toi. Et on leur apprend... en agissant comme ça, en voulant bien faire, en voulant qu'ils soient heureux. On veut qu'ils soient heureux. Fait qu'on a l'impression qu'on fait bien, mais on leur apprend à devenir des consommateurs de tout. De jouets, de bébelles, de livres, d'écrans, parce qu'on ne les laisse pas dans l'espace qui leur appartient d'être dans un clan, d'avoir leur place de petit dans un clan, mais leur place de petit intégré avec les adultes, pas à côté. Elle a décrit très bien comment l'enfant souffre quand il est mis à côté, puis comment ça a un impact après tout le reste de sa vie sur sa volonté, sur le fait d'être incarné dans sa propre vie, puis d'avoir envie d'être en action dans sa propre vie, de faire quelque chose qui l'intéresse, puis de s'auto-préserver en même temps. Puis dans l'auto-préservation, il y a la santé. Tu sais, ça revient à ça, de l'instinct, bien manger. C'est-tu encore un instinct, ça? Bien se nourrir, bouger de façon libre, aller dehors, c'est ça qui fait partie de notre instinct. C'est ça l'attente de notre espèce. C'est ça l'attente de toutes les espèces. Qu'on soit n'importe quel animal, on s'attend à manger ce qu'on a besoin de manger pour se sentir bien. sais, c'est... Fait que ouais, c'est pour l'instinct. Je pense que le fait de tout faire à la place des enfants, c'est... Malheureusement, ça leur permet pas de développer ça. Ça leur permet pas d'apprendre à se connaître tant que ça. Puis après, ben là, il n'y a pas deux cheminements qui sont pareils, évidemment. Puis les enfants cherchent malgré tout, peu importe leur milieu, cherchent à vivre des expériences. Dans tous les espaces qui vont se présenter, là, ils cherchent à faire des expériences puis à vivre des choses qui vont les stimuler sensoriellement. Puis ben, en comprenant que c'est comme ça qu'ils se développent, puis en comprenant qu'on fait bien en leur laissant prendre des risques pour qu'ils deviennent compétents, ben on se rend compte qu'on agit bien en donnant cet espace-là. Puis c'est drôle, hein, parce qu'en même temps, il y a quelque chose de facile. C'est bien plus facile de laisser son enfant sauter dans la flaque d'eau que de l'empêcher. C'est facile de laisser un enfant dire « Ah, je vais essayer de sortir dehors, pas de manteau, dans la tempête de neige, que de l'empêcher. » On le sait bien qu'il ne se laissera pas mourir de froid, là, voyons donc. On ne va pas l'abandonner là pendant 3 heures. On va être à côté de lui. Puis là, il va dire en 1 minute, « Oh mon Dieu, c'est vraiment froid. Je veux mettre mon manteau. » Tu sais, il n'y a pas de danger à ça. Là, mais c'est pas vraiment une prise de risque. Mais tu sais, il y a des choses qui sont plutôt des prises de risque. Nous, on ne peut pas s'imaginer nos enfants de 18 mois faire du tir à l'arc. Elle, ce qu'elle raconte...
Non. Surtout pas avec des vraies flèches.
Mais c'est des vraies flèches. Puis les enfants n'ont pas de règles. Ils apprennent parce qu'ils ont vu les autres. Ils voient bien que dans leur clan, il n'y a personne qui fait les affaires n'importe comment. Ça n'existe même pas, cette idée-là, de s'obstiner, de vouloir faire différent, de s'opposer. Ça n'existe pas. Ils ne voient pas ça. Il n'y a pas de terrible two. Il n'y a pas ces crises-là parce que les enfants sont vraiment intégrés. Puis ça répond à l'attente de leur espèce. Fait qu'à l'intérieur d'eux, tout est comblé.
Je t'écoute, ça me rappelle, quand j'étais allée à Okinawa, j'avais fait des reportages sur les centenaires, mais j'étais aussi allée dans les écoles. J'étais allée dans 2 écoles, puis l'angle, c'était les ritalins, c'est ces médicaments-là qu'on donne aux enfants beaucoup trop ici. Et là-bas, les directeurs, les enseignants me disaient, mais nous, on connaît pas ça, ils trouvaient ça horrible de donner ça aux enfants. Et ce qu'ils me racontaient, c'est que les enfants sont à la fois libres et responsabilisés. C'est dans l'école, c'est les enfants qui sont responsables de faire pousser les légumes. C'est les enfants qui sont responsables. Mais ça se fait d'une façon comme ça. Puis, de toute évidence, c'était des enfants joyeux et qui avaient un rôle dans la société. Et ce qu'on m'avait dit, c'est comment est-ce que ces enfants-là vont devenir responsables si on ne leur donne jamais de responsabilité, puis s'ils ne peuvent jamais se tromper. Fait que ça,
exactement, mais ça représente vraiment tout ce qu'on dit depuis tantôt. Ça doit avoir un sens. C'est comme un peu ce que tu apportais tantôt en disant exercice ou mouvement libre et sauvage. Il faut que ça ait un sens. Faire pousser des légumes, ça a du sens pour un enfant parce qu'il va les manger. Est-ce que ça fait du sens d'apprendre que dans la vie, il y a des gens qui font de l'agriculture dans un cahier, par exemple, d'histoire ou de biologie, puis de faire des travaux là-dessus, puis bon... Pas vraiment d'apprendre qu'il y a des plantes qui travaillent bien ensemble, mais si tu le fais, puis tu as les deux mains dans le jardin, puis tu vas non seulement te nourrir, mais tu vas l'apporter à tes parents, puis là, tu vas comme... Là, ça fait du sens, puis ça devient naturel, puis ça laisse des traces vraiment profondes pour le futur.
Oui, et ces enfants-là savaient très bien ce qu'il fallait manger pour être en santé.
Oui.
Oui, fait que c'est vraiment fascinant. Écoute, on pourrait continuer comme ça. Avant de te laisser partir, Julie, j'aimerais ça que tu nous parles... Bon, toi, tu pratiques à Montréal, à la clinique Freud.
Oui.
Comment est-ce qu'on peut appliquer tout ce dont on a parlé dans un contexte urbain où on manque d'espace, où souvent les familles vivent dans des appartements trop petits, qu'il n'y a pas de balcon, il n'y a pas de parc? Comment est-ce qu'on peut ramener ça à échelle humaine et accessible pour tout le monde?
La nature, tu veux dire?
Oui, bien, la nature, puis le fait de bouger, puis cette liberté-là, puis ce mouvement-là. Comment est-ce qu'on peut...
Ça, c'est une belle, grande, grande question. Bien, déjà, concrètement, c'est de prendre le temps d'observer. Je pense que ça, c'est peut-être la première chose. Puis prendre le temps d'observer, hein, c'est le chemin de la pleine conscience, la méditation pleine conscience. Déjà, de prendre le temps de s'arrêter et d'essayer d'observer ce qui est autour de nous sans mettre d'étiquette, sans essayer de juger, sans juste essayer d'observer ce qui est là. Par exemple, dans notre appartement de ville, y a-t-il des choses? Essayer d'observer. On pourrait se donner, par exemple, une semaine où on observe juste le salon. Comment il est utilisé par les membres de la famille? Qu'est-ce que les enfants de cette famille-là ont tendance à faire? Qu'est-ce qui est permis? Qu'est-ce qui n'est pas permis? Quel coin est utilisé? Quel coin n'est pas utilisé? Puis là, de se permettre de se dire, ben qu'est-ce que ça ferait si j'enlevais ça? Si à la place, ben là, mon enfant, il fait tout le temps des culbutes sur le dossier du divan, peut-être que je pourrais racheter un petit matelas de gymnastique qui va se glisser en dessous du divan quand il l'utilise pas. Ça prend même pas de place. Au lieu de dire non, fais-le pas sur le divan, il pourrait le faire à côté. Déjà, en observant comme ça, ça c'est une chose par rapport au mouvement. Il y a plein de choses faciles qui peuvent être intégrées, des petits trapèzes dans les cadres de porte qui s'accrochent avec un crochet sur le côté qui ne dérange même pas l'espace. Des sensations, des stimulations sensorielles permettent aux enfants de cuisiner, de moudre des grains, d'écraser des choses, de couper des légumes, de sentir des textures, de participer à l'élaboration des repas, de participer aux tâches, mettre la table, passer le balai, s'occuper d'avoir des responsabilités là, différemment selon l'âge. Mais mon jardin d'enfants, déjà, c'était entre 3 et 5 ans. Les enfants faisaient toute leur vaisselle au complet. Fait que pour pouvoir y arriver, j'avais une petite tablette à leur hauteur. Puis là, il y avait 3 bacs. Fait que le premier bac, c'était rincé. Après ça, dans le deuxième bac, il y avait de l'eau chaude avec du savon déjà dedans, puis une petite brosse. Fait que là, ils rinçaient leur vaisselle. Après ça, ils lavaient leur vaisselle. Puis après ça, ils rinçaient leur vaisselle. Puis après ça, ils la faisaient sécher, puis ils allaient la ranger. Puis ça fonctionnait tellement bien. Puis moi, pour vrai, ça m'aidait. Ça faisait du sens. C'était cohérent. C'est du mouvement. C'est de la simplicité. Plutôt que d'utiliser de la vaisselle. Puis là, bien, idéalement, même, on pourrait réduire encore. Puis peut-être que chaque enfant, bien, chaque personne d'une famille pourrait avoir son propre couvert. Au lieu d'en avoir 56 000 exemplaires, si tu as ton assiette, ton bol, ta petite cuillère, c'est précieux, puis on en prend soin. Puis si tu ne l'as pas lavé, bien, prochain repas, il va falloir que tu le laves parce que tu en as juste un. Ça devient logique, ça devient cohérent. Par rapport au mouvement, bien, d'observer ce qui est autour. Après ça, bien, c'est sûr qu'on veut sortir le plus possible dehors. Hein. Fait que trouver qu'est-ce qui est autour, les affordances, c'est ça. Fait que
c'est quoi une affordance?
Les affordances, c'est qu'est-ce qui se prête à autour de chez nous. Dans notre maison, qu'est-ce qui se prête à? Par exemple, dans la maison, le divan se prête bien à être grimpé dessus. ou à être sauté dessus. Il y a certains cadrages de portes qui se prêtent bien à être escaladés par les enfants qui sont un peu agiles. Les escaliers se prêtent bien à être sautés. Les enfants aiment ça, sauter 2 marches, 3 marches, 4 marches. Puis là, ils essayent de faire le plus loin qu'ils peuvent. Mais dehors, on va essayer de les amener dehors. C'est quoi les affordances autour? C'est sûr qu'il y a des parcs à proximité. Il y a peut-être une fontaine à proximité. Observer quelle sorte d'oiseau est là. Peut-être qu'on pourrait mettre une mangeoire qui colle sur notre fenêtre de notre appartement. Observer qu'est-ce qui est présent, quelles plantes poussent autour. Y a-t-il des plantes comestibles qui poussent autour de chez nous? Y a-t-il, c'est quelle sorte d'oiseau, quelle sorte d'insecte? Après ça, ben, les humains, les animaux, on peut comme quels animaux fréquentent le parc? On va prendre le temps d'observer, mais je pense que c'est un travail qui passe vraiment par la pleine conscience. De dire, ben, si on va faire un pique-nique, on a-tu vraiment besoin d'amener plein d'affaires pour occuper les enfants ou on va essayer de développer avec eux? Plutôt cette observation-là. Hey, regarde, j'ai vu un oiseau, je me demande c'est quelle sorte. On cherchera ça dans notre livre à la maison quand on va revenir. Il va peut-être être là la prochaine fois qu'on va revenir. Puis là, j'ai vu telle trace dans la neige. Ça, c'est quoi, tu penses? Puis ça, c'est intégrer le mouvement, intégrer la nature, ouvrir la curiosité, ouvrir la connexion à la nature, la connexion à ce qui est là autour de nous. C'est drôle, hein, comment on a de la facilité à enseigner aux enfants. C'est quoi le cri de l'éléphant, le cri du lion, Mais les enfants d'ici connaissent très peu, en fait, ce qui les entoure. Même nous, pas juste les enfants.
Oui, tout à fait d'accord.
C'est quoi les plantes qui poussent autour? C'est quoi du plantain? Ça pousse partout, ça sert à soigner les bobos. Le tilleul, les arbres étaient tous en fleurs dernièrement. C'est une plante médicinale qui peut être cueillie pour faire plein de choses. C'est quoi ce chant d'oiseau-là? On peut-tu le reconnaître? Si on le voit, on va-tu savoir? Lui, il fait quoi en hiver? Il est-tu encore là? Ça passe beaucoup par la pleine conscience, je trouve, de prendre ce temps-là. Puis c'est peut-être ça qui est le défi le plus grand dans notre société, c'est de ralentir, créer un espace pour observer. Puis dans cet espace d'observation-là, c'est comme... Tout est possible, moi, je trouve. Après, qu'on a pris conscience, parce que cette observation-là nous permet de prendre conscience. C'est pour ça que c'est de la pleine conscience. Puis, si on prend conscience de quelque chose qui, avant, on n'avait pas pris conscience. Si, par exemple, on prend conscience que, finalement, on se rend compte que nos enfants ont beaucoup plus besoin de bouger qu'on leur permet. Puis que peut-être qu'on met beaucoup, beaucoup de règles parce qu'on se sent envahi quand ils bougent dans la maison. On a l'impression qu'une maison, c'est pas faite pour courir puis crier. Bien, peut-être qu'on n'en avait pas pris conscience. Puis en créant cet espace-là, c'est plus inconscient, ça devient conscient. Puis là, on prend conscience de leurs besoins. Et là, on va pouvoir porter une action. Puis on va pouvoir agir en conséquence, puis trouver une façon de faire que les besoins sont comblés. Évidemment que je fais la parenthèse, là, pour les enfants qui grandissent dans des maisons de ville, des appartements, puis tout ça, il faut vraiment trouver des façons de les faire bouger. Le petit trampoline dans la maison, ça marche. Il y a plein de façons de le faire, mais on essaye le plus possible d'être dehors, le plus possible dans la nature, de se trouver une façon d'intégrer cette nature-là. Après, on peut rentrer des choses de nature dans la maison. On peut faire pousser un jardin sur le balcon. On peut avoir des plantes à l'intérieur. On peut faire des semis, des micro-pousses qu'on peut faire pousser sur le comptoir de cuisine. On peut écouter des sons d'animaux, des sons des oiseaux de la forêt boréale dans l'appartement avant de se coucher, peut-être plutôt qu'une histoire qui parle de quelque chose qui est loin de nous. Mais tout ça, ça fait partie des services que j'offre aussi. Fait que moi, je serais très heureuse de partager ça. Là, j'offre de la guidance que j'appelle la guidance éco, pour faire écho, en fait, à ces questions-là. Comment on fait? Comment on fait dans une maison? Comment on fait si on connaît pas trop ça? Comment on fait si on connaît ça pas mal, mais notre enfant est... On dirait que ça ne marche pas sur le coup. Comment on fait si on a un enfant qui a des difficultés d'apprentissage? Puis là, on a entendu cette entrevue-là, puis on se rend bien compte que, ouais, peut-être qu'il ne bouge pas suffisamment ou il n'est pas suffisamment stimulé par la nature. J'offre ce service-là de guidance éco qui peut être un service en ligne. Fait qu'on, je fais ça par Zoom, soit avec des familles ou même des groupes d'amis. Si, mettons, plusieurs amis se mettent ensemble, ils disent « Ah, on voudrait t'entendre parler de telle chose, on aurait des questions à propos du mouvement sauvage, à propos des réflexes primitifs, à propos de l'éducation naturelle, la santé, le mouvement, tout ce qui est autour de nous. » C'est aussi quelque chose que je fais. Fait l'approche Koala avec la clinique Freud à Montréal, puis j'offre ce service-là aussi au Saguenay, et la guidance éco avec les enfants de la Terre, qui est aussi un autre service. Fait que le plus facile, c'est de communiquer avec moi, peut-être par courriel.
OK. Ouais. Okay. Je vais laisser tes coordonnées sur la présentation que je vais faire. Je vais laisser ton courriel disponible. Maintenant, rapidement, l'approche Koala, tu guides des enfants avec quelle sorte d'enjeux?
Ben, dans le fond, la clientèle vraiment que j'ai le plus en ce moment, mais depuis les deux dernières années, c'est presque juste des petits garçons. Déjà, ça, c'est une observation que je fais. C'est des enfants qui, par exemple, ont de l'anxiété. La plupart du temps, ont de l'anxiété. Ou des diagnostics, parce que maintenant, les enfants de plus en plus jeunes en ont. Fait que des diagnostics, par exemple, d'autisme, de troubles d'apprentissage, de troubles de concentration, le TDA, troubles de position. Et autres, là, fait que des enfants qui ont des difficultés, mettons, motrices, de coordination, chez les bébés, par exemple, des bébés qui dorment pas bien ou sont irritables, ou qu'on entend beaucoup parler du quatre pattes, là, mais là, on se rend compte que notre bébé, il est pas en train de le faire, puis qu'il se déplace sur trois pattes, là, sur les fesses, ou il refuse de ramper, ou quand on le met sur le ventre, il pleure, fait que la motricité, le développement émotionnel, les enfants qui font des crises, qui sont très émotionnels, là, qui font des crises de colère, des crises de pleurs, que le terrible tout qu'on a ici s'étire, trop d'apprentissage, ça touche tout dans le fond. Fait que tout ça, ça a une relation avec les réflexes primitifs. Les réflexes primitifs, c'est ça le fondement de mon approche. C'est vraiment le bébé vient au monde avec une panoplie de réflexes primitifs neurologiques, comme les réflexes de succion, d'agrippement, de points cardinaux, qui sont des réflexes que les parents connaissent. Puis ces réflexes-là, c'est tout. Chacun de ces réflexes-là, c'est comme un programme de mouvement et donc de santé et donc de connexion neuronale. Parce que quand on bouge, on fait des...
Donc, c'est ça que tu fais faire aux enfants. Ben, c'est ça que les parents font faire aux enfants.
Je leur donne, en fait, en concentré, j'enseigne aux parents à faire bouger les enfants d'une certaine façon très, très, très précise, des mouvements répétitifs rythmiques qui sont super agréables. Les enfants adorent ça. Et ça vient stimuler des parties spécifiques de leur cerveau, puis on vient rajouter des connexions neuronales. On vient comme faire du plastrage, on pourrait dire, tu sais, sur des petites zones où il manquait des choses. Puis les résultats sont là. C'est impressionnant à quel point c'est simple comme approche. C'est agréable, c'est positif. C'est pas du travail avec un crayon encore. Puis, tu sais, c'est pas une approche traditionnelle, là, c'est vraiment une approche dans le mouvement. Puis c'est l'enfant qui décide. Je veux que tu me le fasses celui-là par les pieds, plus vite, moins vite. OK, j'en ai assez. OK, on prend une pause. Tu me dis quand tu es prêt. Ah, je suis prêt. On y retourne. Fait que l'enfant, il devient qu'il se connaît aussi. Fait que ça encourage tout ce qui est l'empowerment personnel, puis le prendre soin de soi, savoir ce qui nous fait du bien. Puis Ça fait quand même plusieurs années que j'offre ça, que je fais ça. Je suis consultante, en fait, en RMT. Là, je ne suis pas la seule, mais on n'est pas tant que ça encore au Canada. Moi, j'ai eu ma certification en 2019, puis j'étais la 16e au Canada.
Fait que ça, Rhythmic Movement Therapy, c'est ça?
Training, oui.
Training,
c'est ça.
Ouais, okay.
Fait que, en 2019, j'étais la 16e au Canada à avoir complété le cursus là, pour être consultante dans ça. Fait qu'il n'y en a pas encore beaucoup, mais c'est une approche qui intéresse un nombre grandissant. C'est super en développement, beaucoup, beaucoup en Europe. Il y a des cliniques au complet qui fonctionnent juste avec cette approche-là, puis ça donne des résultats vraiment, vraiment intéressants. Les enfants, en fait... Ça vient comme, c'est comme si ça venait calmer tous les réflexes de stress. Ça vient boucher les petits trous dans le développement. Si l'enfant n'a pas marché à quatre pattes, si l'enfant n'a pas fait assez de ce mouvement-là, bien, il y a encore ce réflexe-là qui l'enquiquine quand il est un petit peu plus grand ou même adulte. Puis on lui redonne les mouvements, puis là, le réflexe, puis il se rendort, puis là, bien, l'enfant devient plus en contrôle de son corps, de ses émotions, puis de son...
Plus centré,
oui.
Est-ce que ça marche pour les adultes aussi?
Ça marche jusqu'à la fin de la vie.
OK.
Fait que dans nos formations, ils nous disaient, il n'y a aucun adulte qui n'a pas de réflexe encore actif, alors qu'on ne devrait plus vraiment en avoir dans notre culture. Et c'est vrai, là, parce qu'on n'est pas assez en contact avec la nature, parce qu'on ne bouge plus suffisamment, nos réflexes font comme une partie du travail à notre place. Fait que combien d'adultes qui font de l'anxiété, qui ont de l'hypersensibilité, qui ont des difficultés vestibulaires, du mal de transport, de la sensibilité auditive, des vertiges. Même, on pourrait dire, on peut rentrer là-dedans le manque de confiance en soi, la tendance à figer ou les troubles de colère, les gens qui sont très colériques puis qui ont tendance à réagir fortement aux situations. Mon Dieu, plein d'exemples, là, mais...
Les gens dorment mal aussi, il y a beaucoup de problèmes de sommeil.
Oui, fait que c'est... Nos réflexes, c'est un peu nos gardiens de notre développement tout au long de la vie, puis même jusqu'à la fin. Comme par exemple, la maladie de Parkinson, c'est le contraire, là. Fait que c'est comme les connexions neuronales qui se défont tranquillement à cause de la maladie. Puis en donnant ce traitement-là de mouvement rythmique, on vient pas soigner la maladie, mais on vient extensionner un petit peu. Ça vient ralentir un peu le processus parce que là, à cause de la maladie, les connexions neuronales se défont tranquillement puis disparaissent. Mm-hmm. Les mouvements rythmiques qu'on vient donner en recréent un petit peu. Fait qu'on vient comme faire un contrepoids pour retirer un petit peu les bonnes années, en fait, de ces personnes-là. Okay. Fait que c'est bon jusqu'à la fin, oui.
OK. Hey, c'est vraiment fascinant de t'écouter. J'aurais pu continuer comme ça. Avant de te laisser partir, dans plein de choses que j'ai lues de ce que tu fais et de toi, le mot simplicité revient souvent.
Oui.
C'est un de mes mots phares dans ma vie. Une petite réflexion sur la simplicité et son importance.
Ben, dans la simplicité, il y a ce temps-là. Il y a quelque chose du temps, du ralentir, du rythme de la nature. Du temps pour les relations, du temps pour l'observation, de l'espace pour bouger. Si on est dans cette simplicité-là, on a plus de temps, je pense, pour être bien avec soi-même puis être bien avec les autres, plutôt que de gérer du matériel, puis de gérer de l'argent, puis gérer plein d'affaires qui sont bien compliquées finalement, qui sont au contraire de la simplicité.
Anxiogène aussi.
Oui, anxiogène. Mm-hmm. Au travers de la simplicité, je pense qu'il y a une grande réponse aux grands problèmes de notre époque, là, puis de la crise climatique. Si on veut vraiment ralentir, puis même changer de direction, il va falloir pas juste simplifier, mais en tout cas, il va falloir simplifier vraiment dans le plus de sphères qu'on peut pour y arriver. Parce que si on simplifie rien, puis qu'on garde toutes les choses bien compliquées, et toute cette consommation-là et cette culture-là capitaliste, on va juste rentrer dans le mur vraiment, puis je sais pas qu'est-ce qui nous attend après ça. Je pense que l'humanité peut être surprenante. L'humanité est capable de travailler tout le monde ensemble. On l'a vu pendant la pandémie. Je pense qu'on est capable, tout le monde ensemble, de simplifier, puis d'avoir une vie qui est plus agréable, de se sentir mieux, d'être plus heureux, de se sentir plus connecté à ce qui se passe, puis ça donne plus de sens pour nous, mais pour les enfants aussi qui nous voient, puis qui vont prendre notre place éventuellement. Ouais.
Et ça crée du bonheur.
Et ça crée du bonheur, plein de bonheur. Le bonheur est dans les petites choses. Je pense que tout le monde est d'accord pour ça.
Oui, 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 non, tout à fait. Ouais. Un grand merci, Julie, d'avoir pris le temps. Vraiment, je l'apprécie beaucoup. Je suis certaine que nos auditrices et auditeurs vont beaucoup apprécier. C'est précieux le travail que tu fais, puis vraiment, bravo.
Oh, merci vraiment de cette opportunité-là. C'est un cadeau pour moi de pouvoir avoir cet espace-là pour en parler. J'espère inspirer toutes sortes de personnes à se mettre en action, à prendre du temps, à simplifier, à observer, à regarder ce qui est autour, à réduire les besoins, à se rendre compte qu'on a tellement de richesses autour de nous et on est tellement privilégiés. C'est vraiment un plaisir de pouvoir être invitée et de parler avec toi.
Merci. Merci, à une prochaine. Bye.
Bye.